Pour commencer, j'aimerais juste clarifier un tout petit point de mon dernier message où je ne me suis pas très bien expliqué sur la nouvelle naissance et la sanctification. Donc c'est clair, hein. La nouvelle naissance, elle arrive une fois, et le temps utilisé dans Jean 3, le passage qu'on a lu, il est clair, c'est un aoriste en grec, donc ça veut dire que c'est une action passée, datée. Donc c'est un point sur la ligne du temps. Et puis le processus qui suit la nouvelle naissance est bien entendu la sanctification où Dieu nous travaille pour qu'on lui ressemble de plus en plus, de pas en pas. Ce matin, j'aimerais vous parler d'agir. Agir selon la manière que Dieu veut. Et pour cela, on va voir un exemple assez parlant. C'est l'exemple de David, et on trouve ça dans 1 Samuel au chapitre 17. C'est un passage un peu long, mais on va lire des versets 20 à 50. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe, donc son papa, lui avait ordonné. Son papa lui avait demandé d'aller prendre des nouvelles de ses frères qui étaient à la guerre. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses en précisant. Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu ces paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. » Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivra aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, Puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. On voit dans ce passage que David, il a agi avec une conviction de foi. Et pas parce qu'il avait la plus grosse épée, la plus grosse lance, le plus gros matériel, mais juste parce qu'il avait une conviction que Dieu lui avait donné la victoire. Et ce matin, on va voir quelques éléments par rapport à ça, par rapport à cette manière d'agir à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu ne dépend pas de nos moyens à nous. Elle dépend seulement de Dieu et de la foi qu'il nous donne. Un premier élément pour agir, c'est la motivation pour l'action. Parce qu'on peut agir pour différentes raisons. David, lui, il arrive sur ce champ de bataille, il voit les deux armées face à face, et soudain, il y a Goliath, un petit bonhomme de 3 mètres de haut. Hein, même Steve, il aurait dû le regarder comme ça. Il sort et il défie l'armée d'Israël. Et la réaction des soldats, on peut les comprendre. Hein. C'est taillot, taillot, sauvons-nous. Il est plus grand que nous. On fait pas le poids. Et ils prennent la fuite parce qu'ils ont peur. Et là, on voit la réaction de David. Il est tout jeune, hein. Il venait d'être oint par Samuel, il avait environ une douzaine d'années. C'était un tout jeune, David. Et ce petit jeune, il regarde ce grand gaillard, et puis il dit, mais c'est qui ce gars qui insulte Dieu? Il n'est pas en train de se dire, mais il est trois fois plus haut que moi, ou c'est un grand costaud. Il dit, mais ce gars là-bas, il est en train d'insulter Dieu. Et la motivation de David, c'était que Dieu soit glorifié. Et quand il voit ce géant qui vient pour insulter l'armée du Dieu vivant, lui, il est furax. Parce qu'il se dit, mais de quel droit ce gars se permet d'insulter Dieu et son peuple? Et David, finalement, dans cette motivation, il prend une position. Et sa position, c'est, il veut que Dieu soit glorifié. C'est pas une position pour lui, il en a rien à faire pour lui-même. Il cherche pas sa gloire personnelle, il cherche pas son intérêt, mais juste il y a ce constat, il y a un gars qui est en train d'insulter Dieu, et moi je suis pas d'accord avec ça, parce que je veux que Dieu soit glorifié. Et à ce moment-là, David se dit, mais mon combat, c'est pour la gloire de Dieu. Je veux me battre pour que Dieu soit glorifié. » Et alors que David prend ce positionnement, on va voir qu'il y aura des freins à cette action-là. Et quand on veut se mettre en marche avec Dieu, pour agir, on peut rencontrer des obstacles. Et je crois que je vous apprends rien. Je pense que vous avez tous expérimenté des moments où est-ce qu'on veut s'engager pour servir Dieu, et c'est pas tout simple. Parce qu'à partir du moment où on veut faire la volonté de Dieu, ça va déclencher des résistances ou des combats. Notre propre chair, hein, y a pas besoin de chercher bien loin, notre propre chair, elle peut s'opposer à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul en parle très bien, il dit, mais notre chair a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit. Mais parfois, ça peut être aussi nos familles qui peuvent s'opposer à la volonté de Dieu. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais démissionner de mon travail pour aller faire une école biblique, et un peu plus de 20 ans, ils n'ont pas sauté de joie au début. Hein. Ils se sont dit, mais attends, mais t'es sûr? T'as un bon boulot? Tu lâches tout comme ça? Alors après, c'était OK. Mais les premières questions qu'ils m'ont posées, c'était pas super, alors on s'organise comment? C'était, attends, t'as bien réfléchi? Nos amis peuvent aussi, des fois, ne pas comprendre. Même nos frères et sœurs en Christ, des fois, peuvent ne pas comprendre et s'opposer. Ça, c'est la réalité. Désolé, je vous parle pas d'un évangile à l'eau de rose ce matin. Hein. C'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais nous aussi, hein, on peut s'opposer à Dieu ou on peut s'opposer à la volonté de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Parce qu'on n'est pas parfait. Mais ça, c'est une réalité. À partir du moment où on veut obéir à Dieu et rentrer dans ses plans, il y aura de l'adversité. Et bien sûr, le diable ne souhaite pas qu'on pratique la volonté de Dieu pour nos vies. Et il utilisera tous les moyens possibles, dont nos frères et sœurs en Christ, par exemple, pour essayer de nous détourner de cette volonté de Dieu. David rencontre donc de l'opposition. La première opposition qu'il rencontre, c'est son frère aîné. Et son frère aîné, il n'est pas très sympa quand même. Il le rabaisse et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as ton petit troupeau là dans le désert qui t'attend. Hein, t'es qu'un tout petit berger. T'as rien à faire là. Va t'occuper de tes bestioles. En plus, t'es un orgueilleux. Tu viens là pour fanfaronner. Hein, le grand frère, hein, il est pas tendre hein, avec le petit. Et ça, c'est la première opposition qu'il rencontre. Puis après, il se retrouve devant Saül. C'est quand même le roi, Saül. Hein. Il sait de quoi il cause. Hein. Il est roi. Et Saül, direct, mais tu peux pas aller te battre. T'es un enfant. Un enfant, qu'est-ce qu'il va faire contre un soldat qui a guéri depuis des années? Tu peux pas. C'est pas possible. Et petite parenthèse pour nous. Quand on veut faire la volonté de Dieu et quand on se positionne par rapport à ça, on peut vraiment avoir une opposition, comme ce qu'a vécu David, sur notre identité. Comme ce grand frère, hein, t'es trop petit, c'est pas ta place, t'es pas capable. Et sur notre caractère. Tu fais ça par orgueil. T'as pas la bonne attitude ou t'as pas la bonne motivation. Et on peut être attaqué sur ces éléments-là. Et c'est pas des attaques anodines. Parce que dès l'instant qu'on touche à notre identité, à notre caractère, on touche à vraiment des choses très profondes au fond de nous. Mais si Dieu t'a mis des choses à cœur et que tu vis de l'opposition, ne te décourage pas. C'est normal. C'est normal d'avoir des combats quand on veut entrer dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'il est important de faire, c'est de vraiment faire un point sur Dieu, sur ces éléments-là, sur ton identité en Christ. Seigneur, qui je suis en toi? Parce que c'est là qu'est notre légitimité. Notre légitimité, elle n'est pas là parce qu'on est capable. Elle est là parce qu'on est enfant de Dieu et que Dieu nous appelle à quelque chose. Notre légitimité, elle dépend de lui. Elle dépend de notre identité en lui. Et c'est important de faire ce point-là avec Dieu. Qui je suis en toi? Sur les motivations aussi. les motivations profondes et sur le caractère. Seigneur, est-ce que mon attitude, elle est selon ton cœur? Est-ce que ma manière d'agir, mes valeurs, elles sont selon ton cœur? Et s'il y a le OK de Dieu pour ça, c'est bon. Parce qu'il y a toutes des fois des critiques qui sont juste des attaques non fondées. Après, s'il y a des choses à travailler sur notre caractère, sur notre manière d'agir, mais c'est juste, il faut le faire. Dieu est premièrement intéressé à notre savoir-être. Le savoir-faire, c'est pas un problème pour lui, c'est lui qui qualifie. Après aussi, faire le point avec Dieu sur comment il veut qu'on agisse. Parce que pour aller de A à B, il peut y avoir plusieurs routes. Quelle route Dieu veut qu'on prenne? Et éprouver les remarques qu'on reçoit. Garder le bon et laisser le mauvais. Il peut toujours y avoir du bon dans une critique. Mais à un moment donné, il faut prendre ce bon-là et laisser le mauvais pour aller selon ce que Dieu dit. La manière de Dieu. Saül accepte de laisser David aller combattre Goliath. Et cette décision, elle est quand même délicate. Parce que si David y perd, tout le peuple devient esclave des Philistins. C'est sérieux, ça, hein? Et lui, en tant que roi, c'est sa responsabilité de protéger son peuple. Et si le petit gamin de 12 ans y perd, le peuple, il est esclave des Philistins. Et à ce moment-là, Saül, il va transmettre sa manière de faire à David. Il va lui proposer ses outils. Et c'est normal. Il est plus âgé, il a plus d'expérience, il est déjà allé au combat. Donc, son intention, elle est plutôt bonne. Il donne son propre équipement de guerrier à David. C'est sympa. Et il lui donne son matos. Il dit, tiens, c'est le meilleur que j'ai, prends. Et puis Saül, il semblerait qu'il était aussi assez grand. Hein. Je pense que vous ne vous seriez pas fait de tort, hein, parce que la Bible dit qu'il avait une tête de plus que tout le monde. Donc imaginez ce grand gaillard qui donne son équipement au petit David. Le casque, il devait... Une fois, on a fait un exercice d'évacuation comme ça à l'école, puis à l'école enfantine, puis avec les pompiers, puis les gamins, ils voulaient essayer nos casques, nos vestes, alors on leur mettait nos vestes, alors il avait sur le dos, il avait les manches qui traînaient par terre. Quand on lui a mis le casque sur la tête, j'ai dû le retenir parce qu'il partait sous le poids du casque, puis j'imagine que David, il était un petit peu dans ce cas-là, quoi, hein. C'était un petit peu trop pour lui. Avec ce casque, cette armure, cette épée, et à un moment donné, il essaye de marcher, et il est complètement handicapé, quoi. Il peut pas bouger, il arrive pas à marcher, j'imagine qu'il doit se dire, mais ça pèse une tonne, ce machin. Et là, ce passage nous donne vraiment une leçon de vie. Parce que Saül, dans son intention, il se dit, mais je veux bien faire, je veux lui donner ce qu'il y a de mieux, je lui donne mes propres affaires, mes propres outils. L'attitude de David, moi, je la trouve géniale parce que, en fait, David, il accueille la proposition, il se laisse mettre tout ça sur le dos, sans râler, sans rien dire, et ben voilà, il essaye. Puis au bout d'un moment, ben, c'est évident, ça lui va pas. Il est pas habitué à ces outils-là. C'est pas ses habitudes, c'est pas ce qu'il sait utiliser. Et même ces outils, cet équipement que Saül lui donne, qui est pour lui le top du top, ben, cet équipement-là, il rend David complètement incapable. Pas cette manière de faire, c'est pas la sienne. Ça lui correspond pas. Alors David, il l'enlève et il va prendre ses outils à lui. Et cette leçon de vie que nous donne ce passage, c'est vraiment qu'il y a ce respect entre les générations. Saül, l'ancien, il propose sa manière de faire. David l'accueille, il le respecte, il lui dit pas, oh, comme les jeunes aujourd'hui, oh frère, t'as rien compris. Il accueille ça, il essaye, Et il dit, mais ça va pas, tu le vois, hein, je peux pas bouger. Et là, il propose sa manière, il dit, mais je vais prendre mes choses à moi. Et Saül, ben, il le laisse faire. Il le laisse faire à sa manière. Et ici, on a tous les éléments pour vivre sainement une dynamique intergénérationnelle. On a le respect de chacun et de ses différences. L'accueil de l'autre, de ses fonctionnements. Et un positionnement libérateur pour laisser faire autrement. Et ça, que ce soit dans l'Église ou dans la société, il y a un défi aujourd'hui. Parce que oser faire autrement, c'est pas gagné, hein. C'est vraiment compliqué. Moi, je vois à mon travail, j'essaye vraiment d'amener une culture comme ça parce qu'on n'a pas le choix. On est dans un monde où la technologie, la technique évolue tellement rapidement que si on ne suit pas ça, si on ne se laisse pas mettre à la page, on est obsolète. Et je trouve c'est passionnant. Parce que finalement, on découvre tellement d'autres choses. On n'est pas juste pendant 40 ans à faire la même chose, le même outil, le même truc, le machin. Et moi, quand je vois les outils que j'ai aujourd'hui au travail par rapport à ceux que j'avais quand j'étais à l'école, on a changé de monde. Mais c'est incroyable. Et je pense que dans l'Église, on a les mêmes défis pour des choses différentes. Et ce qui est important, c'est cet accueil réciproque, ce respect des générations, ce respect des fonctionnements différents. Mais en même temps, on a ce challenge, et je pense qu'il est voulu de Dieu d'apprendre. J'ai un ami, il avait cité une fois cette phrase de quelqu'un qui avait dit, mais dans un monde en perpétuelle évolution, ceux qui apprennent héritent du royaume. Ceux qui savent se retrouvent merveilleusement équipés dans un monde qui n'existe plus. Et si on arrête d'apprendre, c'est ça. On est bien équipé, on a super équipement, mais il est juste plus adapté pour aujourd'hui. Alors c'est un défi, parce qu'il faut continuer d'apprendre, mais je pense que Dieu nous encourage à être pas seulement actuel, mais d'être un peuple qui est en avance sur son temps. Parce que Dieu n'est pas pris au dépourvu, Dieu n'est pas pris de surprise par le temps qui passe. Dieu a toujours des coups d'avance. Dieu nous appelle à agir à sa manière, selon sa manière à lui. Et pour agir selon ce que Dieu veut, c'est important d'être au clair sur notre identité en Christ et sur notre motivation. De savoir comment Dieu veut qu'on agisse, mais aussi d'être prêt à être éprouvé pour faire sa volonté. Et une situation difficile, elle peut être permise par Dieu, parce que cette situation difficile, elle va amener du changement. Et finalement, chaque changement nous amène un peu dans une crise, parce que naturellement, on n'aime pas quand ça change. Ça nous fait peur, ça nous désécurise, parce que le changement, la routine, c'est rassurant, c'est toujours pareil, quand ça change. Ça bouscule un peu, mais Dieu permet parfois des difficultés pour nous faire avancer. Et je crois même que des fois, Dieu permet certains défis pour faire lever des David au milieu de nous. S'il n'y avait pas eu Goliath, s'il n'y avait pas eu cette impasse pour le peuple, David ne se serait pas levé. À un moment donné, Saül était dépassé par cette situation, il savait plus quoi faire, le peuple ne savait plus quoi faire, et Dieu a suscité au milieu du peuple David qui a eu cette foi qui a débloqué la situation. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que Saül a eu l'humilité de libérer David pour le faire. Il aurait pu dire, attends, le roi, c'est moi, hein. Et il a eu l'humilité de laisser David aller avec cette foi qu'il avait reçue. Et dans nos vies, dans la vie de l'Église en général, il y a des fois où est-ce qu'on peut se dire, mais là, c'est bloqué. C'est un cul-de-sac. La situation, elle est verrouillée, fermée, bloquée, ça n'avance plus. Quel David Dieu veut lever à ce moment-là? Qui a reçu la foi qui débloque cette situation? Et c'est vrai que des fois, on peut être aussi bloqué dans nos fonctionnements parce que, ben, l'Église, elle a des responsables, ils ont su quoi faire par le passé, ils savent encore quoi faire aujourd'hui, et puis c'est bien, c'est juste. Mais à un moment donné, ben, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui doit se lever. Et est-ce qu'on est prêt à accueillir ça? Comme Saül qui a vu ce gamin, et puis qu'il l'a libéré, il lui a dit, OK, tu peux même y aller sans mon armure, fais comme c'est bon pour toi, parce que il a vu qu'il avait cette foi pour que ça avance. Et je crois que ce passage nous invite aussi à rester attentifs dans l'Église pour vivre ce respect entre les générations, pour libérer quand il le faut peut-être des plus jeunes qui sont la solution que Dieu a choisie pour faire avancer les choses, pour que l'Église avance. Et je vous propose de conclure ce message juste par un temps de prière, dans le sens de remercier Dieu pour le chemin parcouru, pour l'Église, pour chacun de vous, pour l'importance aussi que chacun vous avez dans ce plan de Dieu pour l'Église ici, mais aussi d'intercéder que Dieu envoie des nouveaux membres de toute génération, que Dieu envoie des collaborateurs qui vont travailler avec vous, et que Dieu inspire une collaboration entre les générations, une collaboration qui porte du fruit à sa gloire. Vous êtes OK avec ça? Ben Seigneur, on te bénit ton Église. Et on est reconnaissant pour ça. Parce que tu ne te trompes pas, parce que tu fais tout juste. Et on te remercie pour cette Église. On te remercie pour aussi la place que chacun de ses membres a. Cette place est précieuse, cette place est voulue de toi. Et on te remercie vraiment pour chacun. Et Seigneur, on te prie aussi d'envoyer des nouveaux membres qui soient représentatifs de plusieurs générations. On prie que tu viennes ajouter à l'Église des membres qui soient vraiment des collaborateurs actifs, des collaborateurs équipés, des collaborateurs qui aient reçu de toi la dose de foi que tu veux utiliser pour faire avancer ton Église, pour faire grandir ton Église, pour que ton Église te glorifie et que ton Église puisse marcher dans sa vocation d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, je te prie pour vraiment... une action de toi. C'est toi qui bâtis ton Église, Jésus. On te prie vraiment d'agir, d'appeler. Appelle ces ouvriers, ces ouvrières. Appelle ces générations à se joindre et à amener une dynamique à ta gloire. Amen.